Et à tous, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9 FM ou en ligne sur graphite.net. Je suis Stéphane, je suis en studio avec Anthony, Thibaut, Ronan, Blanche et Jeanne. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes venus ici en studio pour nous présenter le projet RITA, Réseau d'initiatives en transition agroécologique. Alors, ce projet s'inscrit dans le cadre du cours IS03 mené à l'Université de Technologie de Compiègne. Dans le cadre de ce cours, eh bien, vous avez mené un projet durant 4 mois. Alors, mené un projet de conception, vous n'avez pas fait de réalisation, vous n'avez pas développé le site et les applications dont vous allez nous parler, mais vous les avez conçus, vous avez étudié un petit peu l'état de l'art, vous avez fait une maquette sous la forme d'histoire et d'expression fonctionnelle. Vous avez également évalué de façon réflexive votre projet pour essayer en quelque sorte d'en mener une autocritique. Vous avez fait tout cela donc dans le contexte de ce que l'on appelle la low-techisation, c'est-à-dire le fait de chercher à concevoir des projets plus en visant des valeurs sociales et environnementales. Je ne vais pas m'étendre plus avant et donc je vais vous laisser présenter vos travaux en donnant la main peut-être pour commencer à Anthony.
Merci Stéphane. Donc en fait, le projet s'inscrit autour d'une réflexion qui est communément partagée, puisqu'on a vu ces derniers mois la crise notamment des agriculteurs qui ont retourné les panneaux à l'entrée des villes pour montrer qu'aujourd'hui on marche sur la tête en termes d'agriculture. On voit aujourd'hui quotidiennement aussi à quels risques sont soumis les cultures en termes d'aléas climatiques. Et puis un défi aussi lié à l'augmentation de la population au niveau mondial. Et aujourd'hui, notre système agricole dit conventionnel est complètement à bout de souffle et ne répond plus à ces défis d'aujourd'hui. Donc toute la réflexion qui a été confiée au groupe a été de se dire, est-ce qu'une vision de l'autéquisation peut s'appliquer ? Et c'était l'objet du développement de RITA avec le réseau d'initiatives en transition agroécologique, où l'objectif est de favoriser une agriculture citoyenne, c'est-à-dire que les citoyens et les professionnels puissent se partager et se réapproprier le savoir-faire agricole. Donc dans cette application, les étudiants proposent notamment un service d'inscription sur l'application, puis un agenda collectif pour partager les événements, un fil d'actualité, un forum, une mutualisation aussi du matériel, et puis un partage de ressources en termes de documents, d'initiatives, et également des lieux, des partages de lieux, de canaux, qu'on peut mettre en commun pour se réunir et partager des initiatives locales. Et je vais tout de suite passer un extrait pour entrer un peu plus dans le vif du sujet.
Nous avons un système alimentaire aujourd'hui qui est en train de devenir extrêmement fragile. Il y a plusieurs études qui montrent que les systèmes alimentaires actuels sont comme le système financier au moment de la crise de 2008. C'est-à-dire que nous avons un système qui est dominé par d'énormes entreprises où la diversité est très réduite, où la capacité est extrêmement réduite finalement. Toutes les entreprises sont en quête de leur propre intérêt, défendent leurs propres intérêts, mais pas le système global pour tout le monde. Et il y a donc une possibilité que le système alimentaire aujourd'hui s'effondre. Et si c'était le cas, évidemment, cela entraînerait une catastrophe. Et le système alimentaire, on ne peut même pas imaginer quelles pourraient être les conséquences s'il devait s'effondrer. Les gouvernements ont été capables de venir en aide aux entreprises qui en avaient besoin pour les sortir de la crise financière, mais vous ne pouvez pas simplement par un claquement de doigts, en signant un chèque, résoudre les problèmes du système alimentaire. Nous devons donc adresser ces problèmes de manière structurelle, ainsi que leurs impacts environnementaux. Voilà, il y a d'abord l'impact environnemental, mais il y a également les dangers. Le principal danger du système alimentaire, c'est lui-même.
Donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on vient d'entendre une interview de Georges Monbiot par Paloma Moritz, une interview qui provient de Blast et qui a été publiée en décembre 2023. Elle est intitulée « Le système alimentaire mondial menace de s'effondrer » et nous fait part de l'état déplorable de ce système. Avec le projet Rita, on a donc décidé de s'intéresser au système alternatif qui pourrait proposer une nouvelle alternative donc au système agricole actuel.
Bonjour à tous, je m'appelle Blanche, donc je fais partie du groupe d'étudiants qui a travaillé sur le projet Rita. Et moi, je vais vous parler tout d'abord de l'état de l'art. C'est la première étape que nous avons menée avant de commencer notre projet en lui-même et qui constitue de la recherche. En fait, c'est important d'avoir dans un premier temps une vision globale de ce qu'il existe déjà dans le domaine qu'on étudie, à savoir ici le domaine agricole. Les problématiques que nous avons soulevées dans notre projet Rita, comme la nécessité de se réapproprier les savoir-faire agricoles, ne sont pas nouvelles. Et certaines solutions, que j'aborderai par la suite, ont déjà été formulées. C'est pourquoi il est nécessaire de se renseigner sur ces solutions pour savoir pourquoi elles n'ont pas été définitives pour résoudre ces problèmes. Par exemple, un travail qui nous a beaucoup inspiré est celui de Julien Rossignol, qui est le fondateur de Bilio. Bilio, qui est une plateforme coopérative au service de l'agriculture citoyenne. Pour rappel, l'agriculture citoyenne est un mouvement encourageant la participation des citoyens à la production alimentaire locale et durable. Elle a différents objectifs, rapprocher les consommateurs des producteurs, promouvoir une alimentation de qualité et renforcer les liens sociaux au sein des communautés. Pour Bilio, cette démarche passe par la mise en place de réseaux d'entraide au sein du voisinage. L'idée, c'est que les utilisateurs prennent des initiatives et que Bilio le leur permette en les accompagnant pas à pas grâce à l'application qui fonctionne comme un guide et qui les met en contact avec d'autres voisins pouvant les aider. On a eu la chance d'avoir un contact direct avec Julien Rossignol qui s'est directement intéressé à notre projet et qui a répondu à nos questions. Nous avions déjà quelques connaissances de par notre consultation du site internet de Bilio et cette discussion avec Julien Rossignol nous a permis de voir quelles difficultés il a pu lui-même rencontrer au cours de la création de l'application. Il nous a témoigné avoir perdu beaucoup de temps sur l'élaboration de l'application dans sa forme en soi, et nous a conseillé de nous focaliser sur le fond pour voir si dans un premier temps, l'application arrive à se développer, même à petite échelle, par exemple au sein d'une commune. Julien Rossignol nous a aussi parlé de la gouvernance. À ce stade du projet, nous n'étions pas décidés sur le cadre juridique dans lequel devait s'inscrire Rita, et il nous a éclairé à ce sujet. Et par la suite, nous nous sommes penchés sur le principe de la fédération, qui laisse selon nous une liberté et un pouvoir à ses utilisateurs dans une dynamique de domination de l'homme par rapport à la technique. Anthony, notre suiveur, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui, nous a aussi parlé d'autres travaux qui pouvaient nous intéresser, et notamment l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan, qui est une coopérative d'intérêt collectif d'autoconstruction et qui se focalise sur l'aspect technique lié aux outils et aux machines agricoles. Nous nous en sommes inspirés en reprenant par exemple les idées de mutualisation d'outils et les propositions de formation par le biais de l'agent collectif sur l'application Rita. L'état de l'art a donc été une étape préliminaire essentielle à notre projet, dans la mesure où il nous a permis dès le départ d'avoir au maximum une vision d'ensemble, une vision systémique. Nous allons maintenant vous présenter un deuxième audio.
Réaliser une utopie, revenir à la terre, c'est justement le projet de Laurent Rohr. Une ferme urbaine, sur les coteaux, juste au-dessus de Clermont-Ferrand. 3500 m² défrichés et mis en culture depuis un an et demi.
L'idée au départ, c'était de faire un lieu qui soit à la fois un lieu de vie, un lieu de rencontre et un lieu qui permette aux gens de prendre conscience de la situation agronomique dans laquelle on est depuis des décennies et d'occuper des espaces en déshérence pour pouvoir refaire de l'agriculture urbaine comme c'était la tradition ici à Clermont. Il y avait des jardins ouvriers partout. Et l'idée, c'est de remettre en route des surfaces abandonnées et de proposer aux gens des solutions pour faire de l'agriculture avec un rendement intéressant, même quand on n'a pas une grande surface ou un jardin qui se prête à la culture.
Voilà, donc c'était un extrait de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, publié il y a 5 ans, et qui donnait un exemple d'éco-citoyenneté en Auvergne.
Ok, donc bonjour à tous, donc, je m'appelle Jeanne, je vais maintenant poursuivre avec la présentation d'une partie du maquettage. Donc je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que le maquettage. Donc le maquettage, c'est une des parties qui a été les plus conséquentes de notre projet. Elle a pour objectif de donner à voir ce que la réalisation du projet par l'intermédiaire de petites histoires qui mettent en scène et illustrent donc les différentes fonctions qui vont être réalisées par le projet. Donc cette étape du projet, elle permet de définir clairement les différents produits que le projet vise à réaliser. Et donc en ce qui concerne le projet Rita, donc, un des outils que nous retrouvons dans le maquettage, donc, il est appelé l'agenda collectif. Donc l'agenda collectif, c'est un moyen pour les utilisateurs de Rita de contacter les habitants environnants pour faciliter des échanges de matériel, mais également pour organiser des sessions de plantation Il peut également être utilisé pour faire participer les habitants d'une commune à des événements comme une foire de l'agriculture ou des petites conférences. Et donc c'est un moyen pour tous les utilisateurs de la plateforme, que ce soit des amateurs ou des professionnels, d'apprendre de nouvelles méthodes de culture et de partager leurs connaissances avec des collectivités environnantes. Donc je vais maintenant vous lire une des histoires qui est issue de l'outil de l'agenda collectif du maquettage. Donc cette histoire, elle s'intitule « Une session de plantation collective ». Donc Bertrand est un agriculteur modeste dans son petit village. Il possède une surface de 2000 m² de culture. Et le mois de mai approche à grands pas. Il doit donc planter ses poireaux. Seulement, Bertrand n'a pas assez de main d'œuvre. Tout lui planter seul lui prendrait pas moins de 2 semaines. Il décide d'aller sur l'application Rita et de consulter l'agenda collectif afin d'organiser une session de plantation et d'apprentissage. Pour cela, il a donc besoin de renseigner le nombre de personnes dont il a besoin, environ une quinzaine dans son cas, et la durée de la tâche à effectuer, ainsi que les jours et les horaires de disponibilité, le lieu du rendez-vous et le délai de rétractation qu'il autorise. Donc, Rita permet donc, à travers cette histoire qu'on a mis en place, à un agriculteur donc, professionnel de trouver des personnes pour l'aider avec ses plantations, en échange ici d'une session d'apprentissage. À travers ces histoires, on voulait mettre en lumière plusieurs valeurs comme la convivialité ou le partage, car l'agenda collectif, il est ici mis en place pour organiser des rencontres et partager les connaissances. Et en ce qui concerne donc les leviers d'action qu'on retrouve, on retrouve une alerte des communs. Donc l'agriculteur, il encourage les projets collectifs et transmet ici ses connaissances aux autres. Donc pour conclure, le projet Rita, il permet de promouvoir une agriculture collaborative et de proximité en facilitant les échanges de savoir-faire et de ressources. Et donc le maquettage, ça a été une étape essentielle à notre démarche et nous a permis de visualiser et de préciser les différents produits et fonctionnalités que nous voulions offrir au cours du projet.
Très bien. Et donc après, pour poursuivre sur la méthodologie d'IS3, on est passé à l'étape d'évaluation. C'est une étape qui consiste à questionner, modifier, discuter du maquettage, et donc a posteriori, via plusieurs outils méthodologiques. On va ici s'intéresser à l'un de ces outils, intitulé « L'empreinte fantôme », un outil en partie développé par l'historien Guillaume Carnino. Cet outil permet d'avoir une connaissance des répercussions de notre produit sur l'environnement social, mais aussi l'environnement en général. On centre alors notre regard sur le produit à analyser, puis on étudie ces interactions via différents axes d'analyse. On peut alors les choisir, en développer de nouveaux, mais ceux qui sont principalement proposés sont d'abord une analyse du cycle de vie, qui nous permettent de questionner l'obsolescence de la technique, qu'elle soit culturelle, et donc cela dans chaque élément du produit. On analyse ensuite la dépendance à la technique, on questionne les usages possibles de notre objet. Est-il appropriable ou bien son utilisation est-elle contrainte en amont? Pour ce qui est de Rita, on a choisi un logiciel libre, donc quelque chose qui est, à condition d'avoir certaines compétences, assez appropriable. Un autre axe d'analyse est le mythe de la transition. Comment notre projet s'insère-t-il dans le système technique? Ne fait-il que s'y ajouter? Ou bien entre-t-il en confrontation avec celui-ci? Est-ce une vraie alternative? Ce sont ce genre de questions que l'on peut se poser. On voit alors que Rita incite les décideurs politiques à repenser la distribution des aides pour soutenir les autres systèmes agricoles viables, à condition, que Rita prenne une grande échelle. Mais à une plus petite échelle, il permet de promouvoir un mode de vie plus soutenable et convivial, même si cela dépend bien sûr de l'investissement de chaque personne et de chaque village. Il permet alors de faire évoluer son rapport à la nourriture et donc de consommer plus local. Pour ce qui est d'un axe appelé l'abstraction de la nature, il nous permet d'étudier en quoi notre produit supprime-t-il des contraintes environnementales et risque d'entraîner la déconsidération de certains facteurs environnementaux. On peut alors dire, un point positif pour Rita, que la recherche d'autonomisation de la production alimentaire entraîne une prise en considération de notre dépendance et de notre impact sur le climat. Cependant, l'utilisation d'un logiciel pour des communications au sein d'une petite communauté remplace des communications physiques qui étaient parfois déjà existantes, voire spontanées, entre voisins. Un dernier axe d'analyse est celui de la prolétarisation. Notre projet participe-t-il à priver une personne de ses savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre ? Est-ce qu'il dévalorise ses savoirs, les rend substituables pour un tierce, un artisan ou juste une personne lambda ? On pense que non. À l'inverse, il permet l'amélioration des conditions de vie des producteurs et des consommateurs. D'une part parce qu'il partage, il permet de faire partager des savoir-faire paysans qui sont parfois minoritaires ou en train d'être délaissés, et donc de développer une nouvelle culture commune. Il permet aussi de supprimer les barrières à l'entrée, puisque le capital nécessaire pour se lancer dans l'agriculture est en commun. Il permet alors de pratiquer et d'apprendre en communauté, quelles que soient les connaissances et le capital initial de chaque personne. Cependant, les consommateurs déjà sensibilisés, qui se fournissent localement, seront plus à même de se lancer dans le projet Rita, et dépenseront donc moins, puisqu'ils produisent par eux-mêmes, engendrant une perte du pouvoir d'achat des agriculteurs locaux. C'est une critique que l'on peut faire de Rita. Finalement, cet outil nous permet d'avoir un regard critique sur notre projet et nous pousse à retravailler certains points, pour ne pas créer de dépendance au numérique et assurer une remise en question globale du système agricole, afin d'alerter et d'imaginer de nouvelles manières de se nourrir. Je laisse Thibaut enchaîner sur un nouvel outil de cette phase d'évaluation.
Voilà, donc on a aussi tenté de déterminer les différents effets rebonds que notre projet pourrait provoquer pour mener un plan d'action permettant de les anticiper. Donc pour rappel, les effets rebonds, ce sont les impacts environnementaux et ou sociaux liés à une technologie sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc ça prend en compte les effets non prévus ou souhaités, et y compris les effets indirects. On peut prendre l'exemple de la voiture pour illustrer ce que peuvent être ces effets. Par exemple, si on baisse la consommation de carburant d'une voiture, on pense a priori qu'on va diminuer son empreinte environnementale. Mais en diminuant la consommation, on rend son usage moins cher et on va potentiellement plus l'utiliser, voire la privilégier devant les transports moins énergivores, comme le train. Donc à la fin, le bilan peut être négatif. Donc dans le cadre de notre projet, on a tenté d'anticiper les effets directs et indirects potentiels, qu'ils soient à court ou moyen terme et qu'ils soient visés ou non. Donc par exemple, on a relevé comme effet indirect, non prévu et à moyen terme, l'augmentation de la vulnérabilité des communautés face aux aléas climatiques. On peut imaginer que la volonté de consommer et de produire plus local provoquée par le développement de Rita réduira les échanges extérieurs liés à l'importation et à l'exportation. Or, certaines communautés sont très exposées aux aléas climatiques et elles risquent d'y être beaucoup plus vulnérables en ce qui concerne les cultures, car elles auront moins de capacité à se fournir en alimentation autrement que par leur propre récolte. De ce fait, en cas de phénomènes extrêmes, elles deviendraient directement dépendantes des autres pour se nourrir. Donc pour pallier à ce problème, il faut permettre aux zones qui sont les plus exposées d'accéder en cas de phénomène extrême aux ressources des zones qui sont les moins impactées. Cela suggère de garder des échanges avec l'extérieur, même si on est capable durant une période donnée de produire localement. On a également relevé d'autres effets. Donc par exemple, comme effet à court terme, non prévu, nous avons notamment relevé l'augmentation de l'utilisation du numérique que Rita pourrait engendrer. Comme effet à court terme non prévu. En effet, puisque l'utilisation du numérique, l'utilisation de notre application encourage simultanément l'utilisation de l'application du numérique. Seulement, l'usage du numérique est énergivore et consomme des ressources. Ensuite, on a également des effets prévus et qui sont souhaitables. Donc, par exemple, on peut s'attendre à des effets indirects tels que la diminution de la compétitivité agricole avec les autres pays. En effet, avec la baisse des importations agricoles, en particulier en France, on verra une diminution des concurrences étrangères, qui est d'ailleurs souvent inéquitable, puisqu'il y a des différences de restrictions d'un pays à l'autre, notamment en termes d'agroécologie. Cette baisse de compétitivité va permettre aux petites fermes agricoles de maintenir leur activité, qui est aujourd'hui malheureusement en baisse. On a aussi une diminution de la pollution, puisque la démarche proposée par Rita permet une diminution de l'usage des transports, donc l'importation, l'exportation et le circuit court, ainsi que la mutualisation des ressources, puisqu'on réduit ici la production des objets. Et enfin, en termes d'effets directs, Rita va permettre le développement des potagers, puisque l'application propose aux utilisateurs de partager des ressources pédagogiques qui permettent de s'initier ou de développer leurs connaissances sur la culture de leur potager. Donc pour tous les effets rebonds relevés, et il y en a d'autres, on a pu rechercher les pistes afin d'anticiper les problèmes qu'ils pourraient créer à la manière des exemples que j'ai donnés. On vous invite donc à aller regarder sur le site lonum.fr si vous souhaitez avoir plus de détails sur notre projet.
Merci à tous les cinq pour la présentation du projet Rita. Donc c'était Anthony, Thibault, Ronan, Blanche et Jeanne qui présentaient le projet Réseau d'initiatives en transition agroécologique. Donc vous avez commencé par nous rappeler que votre projet était inspiré notamment des travaux précédents tels que ceux de Bilio de l'atelier paysan. Vous êtes revenu également sur des choses qu'on a abordées à d'autres reprises dans les autres émissions, comme la nécessité de travailler ensemble, de faire communauté. Vous avez même utilisé le mot de commun, mais je vais y revenir dans les questions. Et puis vous avez illustré comment, dans une démarche de conception, on peut essayer d'intégrer des concepts assez difficiles qu'on n'intègre pas forcément habituellement dans une approche d'ingénierie, comme se poser des questions sur les effets en termes de prolétarisation ou d'effets indirects, d'effets rebonds. Voilà. Donc du coup, c'était une bonne illustration de ce que l'on travaille dans le cadre de ce cours. Première question que je vais vous proposer, vous avez mentionner que le mode de fonctionnement s'inspirait et puis contribuait en quelque sorte à une logique de commun. Vous avez associé ça à la notion d'alerte. Alors la notion d'alerte, je rappelle, hein, c'est cette idée qu'à un moment, le projet peut servir à faire prendre conscience en quelque sorte aux citoyens, aux organisations politiques, et bien qu'on peut fonctionner différemment. Et c'est intéressant de voir qu'un projet d'ingénierie, un travail d'ingénieur, un travail a priori technique, bah en fait, selon la façon dont il est mené, il peut conduire effectivement les autres citoyens à modifier leur représentation en quelque sorte de la façon dont on peut travailler ensemble. Alors du coup, vous nous avez parlé de la notion de commun. Pour rebondir donc sur une des questions qui était portée par le groupe Hémodialis qu'on entendra la semaine prochaine, en quoi, à votre avis, cette notion de commun, de culture libre, peut être bénéfique dans le contexte, vous en avez parlé un petit peu, hein, mais dans le contexte en particulier de l'agriculture, de la nourriture, en quoi, peut-être on peut réinsister un peu là-dessus, le fait de travailler autour de cette notion, eh bien, peut avoir des effets bénéfiques.
Alors, je reprends le micro. Donc, la notion de commun, en général, elle permet principalement de transmettre des valeurs qui sont assez fortes. Et on pense ici à Rita que l'accès à la nourriture et à une nourriture saine, ce serait déjà une valeur très forte qu'on pourrait communiquer. Donc, le fait de faire passer ça par des communs, c'est presque intuitif, j'ai envie de dire. Et puis c'est aussi quelque chose qui était en tout cas très appropriable à l'époque. Enfin, l'agriculture, elle est née comme ça, elle est née par les communs et par les gens, par la population, et donc il faut simplement réussir à se la réattribuer, et donc c'est pour ça que Rita pourrait nous aider à faire ça aujourd'hui.
Ouais, c'est effectivement assez intéressant, c'est qu'on voit quand on fait un peu l'histoire du logiciel libre, par exemple, on voit qu'il y a souvent des références qui sont faites justement au commun et dans un contexte agricole. Peut-être un sujet qu'on a abordé très très rapidement en IS3, mais celui de permacomputing. Donc aujourd'hui, on parle de permacomputing pour essayer de réfléchir justement à une informatique qui se baserait un peu sur les méthodes de la permaculture. Donc même si ça peut paraître un peu antinomique au départ, on voit qu'en fait le monde de l'informatique et le monde de l'agriculture parfois on va se parler. Je vous propose une autre question d'Arthur et du groupe AGTech. Donc vous nous avez présenté Rita comme fonctionnant à un niveau à une échelle locale. Comment est-ce que vous imaginez que ça pourrait se démocratiser ou se diffuser à l'échelle, par exemple, d'un pays comme la France ou même à une échelle encore plus large ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe en quelque sorte de la petite échelle locale. Donc on comprend bien l'intérêt dans ce que vous nous avez présenté, hein, travailler ensemble, on l'a vu avec l'agenda, collaborer, se rendre des services, partager des outils, etc. Mais du coup, si on a envie que ça prenne une ampleur un peu plus large, comment est-ce que vous avez des pistes autour de ça?
Ben, alors du coup, je vais répondre. C'était un peu pour cela en fait qu'on a décidé de rendre notre logiciel libre, parce qu'en fait ça permet à tout le monde de pouvoir se l'approprier, de pouvoir le modifier en accédant au code source, etc. Et donc l'idée c'était que par les besoins des utilisateurs, ils soient en fait conduits naturellement à utiliser notre application, ce qui permettrait d'élargir les communautés Rita, quoi.
Je me permets juste de rajouter un mot. Et du coup, on, comme Thibault l'a dit, on s'inscrit dans le logiciel libre. Et en plus de ça, on est fédéré. C'est-à-dire qu'on crée une fédération. Et donc, on a toujours cette petite échelle qui est adaptée, justement, bah, comme Thibault vient de le dire, aux environnements. Et via la fédération, on réunit tout le monde. Et c'est ça qui forme la grande échelle et donc la puissance politique, on peut dire, de Rita.
Ouais, c'est un concept hein, qu'on a croisé aussi dans les projets précédents. Et donc effectivement, que permet le logiciel libre, le fait de pouvoir faire plein de copies qui permettent en quelque sorte de respecter les différences au niveau local à chaque fois, et en même temps ensuite donc de se fédérer comme tu l'as dit, pour repartager à une échelle un peu plus globale et remettre en commun une échelle un peu globale. Donc jouer aux deux niveaux en quelque sorte, sans qu'on ait un gros centre qui impose sa façon de faire à tout le monde, et sans qu'on ait non plus des communautés éclatées, mais qui communiquent pas entre elles. Peut-être une dernière question autour de la formation, notamment. Enfin, si demain là, je veux participer au réseau Rita, par exemple, dans le cadre de mon jardin, j'ai plein de pucerons sur mes fèves en ce moment, par exemple, elles sont toutes en train de mourir là. J'aimerais bien que un agriculteur m'aide un peu à mettre en place une agriculture un peu plus adaptée dans mon potager. Est-ce que je passe forcément par, bah, du coup, encore une fois, un réseau local, un agriculteur qui va se déplacer ou moi qui vais me déplacer? Ou est-ce que vous avez imaginé des moyens numériques autour de ça? Donc, est-ce que je pourrais avoir des tutos en ligne, nous demande par exemple Emma du groupe Biomonitoring, ou je sais pas, moi, un média social où je pourrais poser des questions ou des spécialistes me répondraient. Enfin, je sais pas, voilà. Vous avez exploré des pistes comme ça ou...
Donc là, comme vous l'avez évoqué, on peut avoir des formations qui vont se dérouler en présentiel, où il va y avoir des rencontres, etc. Mais on a un autre onglet de l'application qui est sur les ressources et les initiatives et qui permet à chacun d'y déposer des documents, donc des documents qui peuvent être des textes, qui peuvent être des vidéos, etc., pour renseigner, informer. Donc justement, c'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être. Il peut y avoir des tutos vidéo tout à fait qui sont disposés dans cet onglet.
Ok, et puis bah, j'avais dit que c'était la dernière question, mais allez, il nous reste encore quelques minutes, peut-être juste en ouverture, finalement une question qu'on va vous poser dans le cadre de ce projet, peut-être aussi qui pourra interpeller Anthony, qui aurait pu interpeller également à peu près toutes les initiatives qu'on a entendues précédemment. Donc la question, je vous la lis, hein, c'est la question du groupe Hémodialyse: comment inciter les bénévoles, les citoyens à venir participer aux ateliers? C'est-à-dire qu'on imagine dans le cadre de IS3 à chaque fois des projets un petit peu différent de ceux qui ont l'habitude de se développer. Et donc une question qu'on se pose un peu à chaque fois, hein, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, c'est finalement comment est-ce qu'on fait en sorte que eh bien les citoyens, les gens participent à ces initiatives. Est-ce que vous avez imaginé des choses autour de ça? Est-ce que vous avez un peu des clés? On en a évoqué un peu, hein, le fait de passer par la culture, par l'éducation, par exemple, peut-être de communiquer à la radio. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées comme ça.
Bah déjà, on peut prendre l'exemple de Bilio, qui communique, qui rentre en communication du coup avec les mairies afin de s'entendre sur à la fois l'aspect financier, parce que c'est comme ça qu'il se financie, mais afin aussi de sensibiliser et de rendre plus vaste les communautés qu'ils veulent toucher.
Ok, Ronan, une dernière, je te vois. est-ce que tu veux ajouter un dernier mot?
Oui, justement, enfin, du coup, il y a toute cette partie-là de. On peut passer par d'autres instances pour fédérer des personnes déjà fédérées entre elles. Et aussi, je pense que le principal, c'est de sensibiliser les personnes, enfin les gens, de leur redonner le contact avec déjà comment est-ce qu'on produit par soi-même, mais aussi c'est quoi les enjeux aujourd'hui du système agricole, dans quel état il est. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement, malgré les manifestations qu'on a pu voir cette année. Donc je pense que l'enjeu, il est là aussi, il est dans la sensibilisation et la réappropriation de l'enjeu qu'est l'agriculture par les citoyens.
Ok, et puis donc avec le projet RITA, où vous l'avez cité, hein, d'autres donc, qui a une sorte de conception de projet pour le moment, mais vous avez cité des projets réels comme celui de Bilio, encore une fois, ou de l'atelier paysan, et bien des moyens aussi concrets qui sont donnés aux uns et aux autres pour s'engager dans ces démarches. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour clore cette journée de présentation. Non ? Vas-y, allez, Anthony.
Oui, moi, je vais ajouter un mot, parce que donc, je travaille dans le domaine agricole et je trouve ça stimulant, en fait, de pouvoir travailler sur un projet avec des étudiants qui, je pense pouvoir le dire, n'avaient pas forcément au début prévu de travailler sur l'agriculture et qui, eux-mêmes, ont fait la démarche de se réapproprier aussi une partie, déjà, de cette question qui est, comme vous l'avez rappelé, fondamentale. Donc, je trouve ça vraiment enthousiasmant de voir comment, déjà, ça essaime au sein de l'UTC. Et puis, de voir après comment ça peut se déployer. Et ça, je pense, a déjà planté quelques petites graines qui vont germer par la suite.
Eh bien, merci Anthony de cette conclusion qui permet effectivement de montrer que si à l'UTC, on parle parfois d'intelligence artificielle, de drones, de voitures autonomes, eh bien, après tout, on peut aussi, pourquoi pas, parler d'agriculture. C'est aussi des enjeux d'ingénierie. On parlera également de santé la semaine prochaine, notamment avec le cas de l'hémodialyse. Donc voilà, on peut aborder des sujets peut-être un peu moins high-tech, un peu moins futuriste, un peu moins science-fiction. Mais par contre, peut-être... voilà, qui nous touchent de très proche, puisqu'on parle ici de nourriture ou de santé. Et ben merci à tous les cinq. J'étais donc avec Anthony, Thibault, Ronan, Blanche et Jeanne. C'était la présentation du projet RITA, Réseau d'initiatives en transition agroécologique. C'était la cinquième et dernière présentation de la journée. On a parlé également juste avant du projet Transition, une application pour faire remonter des idées au sein de son organisation, des idées orientées l'autéquisation. On a parlé du projet Fédiripair, un réseau fédéré de réparation électronique. On a parlé de SOS Capteurs pour mettre en relation des personnes, notamment des chercheurs qui souhaitent utiliser des capteurs de mesures environnementales. Et on a également eu la présentation du projet L'Ocyclopédia, une application web sur le modèle de Wikipédia pour partager des projets low-tech ou low-techisants. La semaine prochaine, nous aurons à nouveau mardi après-midi des présentations des quatre projets restants dans le cadre du cours. On aura, je ne dirais juste les titres, voilà, ça inspirera ou, peut-être les auditeurs. On aura l'arbre à chatons, on aura AGTech, Hémodialyse et Biomonitoring. Eh ben, je vous dis au revoir à tous les cinq.
Au revoir.
Au revoir.
Et puis à très bientôt. Au revoir.